Nous continuons cette émission donc en accueillant comme prévu Christian Boltanski, un artiste doublement à l'affiche sous la nef du Grand Palais, d'une part dans le cadre de Monumenta avec une œuvre intitulée « Personne » au pluriel, et puis au Macval à Vitry-sur-Seine avec une exposition intitulée « Après », deux expositions pensées par vous, Christian Boltanski, comme complémentaires, comme deux cercles de l'enfer, vous l'avez dit, ou comme deux actes d'opéra, selon la métaphore que l'on choisit. Avant d'en parler, dire aussi que l'on a appris que vous avez été choisi, Christian Boltanski, pour représenter la France à la prochaine Biennale de Venise en 2011. Alors justement, vous le savez, j'ai eu l'occasion de vous accueillir ici par le passé. Nous nous sommes croisés quelques fois. Vous savez que je suis un grand admirateur de votre travail, ce qui me permet de vous poser cette question un peu abrupte. Est-ce que ce n'est pas un peu étrange d'avoir enfin donc un artiste français à Monumenta, Christian Boltanski, le même à la Biennale de Venise 2011, aurait-ce été un autre, quel qu'il soit? Est-ce que c'est pas du coup faire beaucoup un coup de projecteur très important sur le même artiste? Je vous dis ça avec tout le respect que je vous dois, Christian Boltanski.
Tout ça est un peu lié au hasard. Que effectivement, en fait, pour Monumenta, on m'avait proposé d'être le premier artiste. Et puis moi, j'aime travailler très lentement. Et donc, j'ai préféré qu'il y ait plus de temps. La Biennale de Venise, vous savez, c'est une chose qui... Je crois que j'aurais pu présenter un travail il y a beaucoup d'années. C'est un peu les sortes de hasards. Vous savez, c'est comme pour le pape, il y a les papabili, je ne sais pas comment ça on dit, il y a 15 cardinaux qui sont possibles. Et puis, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas, il y en a qui l'ont avant, il y en a qui l'ont après. Et ça joue un petit peu, je crois, au hasard. Tout pose une question différente. Je pense que Venise est un lieu très difficile, différent du Grand Palais, peut-être même plus difficile que le Grand Palais. Mais bon, vous savez, il y a une chose, naturellement, quand on vous propose ça, on est content, puis en même temps, on se demande est-ce que j'accepte ou non. Et il y a différentes choses qui m'ont fait accepter. D'une part, c'est une histoire que... J'avais un vieil ami de ma famille et il montrait toujours son agenda et il disait alors jeudi j'ai un déjeuner, puis vendredi je dois faire une conférence et samedi j'ai telle chose et alors dimanche je dois partir en Bretagne. Et bon, il disait je ne peux pas mourir la semaine prochaine, je suis tellement occupé. Et je crois qu'une des choses qui nous font accepter des choses comme ça un peu long terme, c'est de se dire je ne peux pas mourir. J'ai un rendez-vous, quoi. J'ai pas manqué. Donc ça, c'est sûrement une chose qui nous fait agir. Et l'autre chose, c'est que j'ai une passion gigantesque dans ma vie pour la brandade de morue qu'on ne peut trouver qu'à Venise, qui est faite sans pommes de terre. Et c'est seulement de la morue qui est battue avec de l'huile. Et c'est très difficile d'en trouver ailleurs. Et donc, c'est une bonne raison aussi de se dire que je vais avoir un temps assez long où je vais pouvoir manger de la brandade.
Pascal Auré qui intervient déjà, pardon, je ne vous ai pas encore représenté, Pascal Auré, mais vous êtes là et vous intervenez, tout comme Vincent Huguet qui va être amené à réagir aussi, et Sophie Joubert qui est restée à mes côtés. Alors, cela étant dit, hein, Christian Boltanski, j'ai très hâte évidemment d'être en 2011, donc je ne peux pas mourir d'ici là, puisqu'il faut que je vois ce que vous allez faire de ce pavillon impossible, ce pavillon français, l'architecture complexe, beaucoup, beaucoup s'y sont cassés les dents, enfin, en tout cas un vrai casse-tête. Bon, on en reparlera, j'espère, ensemble. Plus tard, enfin que les choses soient claires, évidemment, j'ai hâte de voir cela. Alors, la dernière fois que je vous avais reçu, c'était avec Abbas Kiarostami. Vous préfaciez un livre de photographie du cinéaste et donc photographe iranien. La fois précédente, c'était avec Catherine Grenier, qui est la commissaire de cette exposition Monumenta. Vous étiez venu parler avec elle de ce livre, La vie possible de Christian Boltanski, paru chez Fiction et Compagnie, aux éditions du Seuil. Un livre d'entretien au long cours, sorte de psychanalyse de Christian Boltanski. Un livre que vous n'avez jamais lu, toujours. M'avez-vous dit?
J'ai toujours jamais lu ce livre.
J'ai toujours jamais lu, c'est bien comme phrase.
Voilà, oui.
Il ne faut pas le lire.
Toujours jamais, oui. Non, il ne faut pas le lire. D'abord, je connais bien le personnage. Pas très sympathique. J'aurais pas beaucoup de suspense parce que les événements, je les connais un petit peu. Donc voilà pourquoi.
Enfin, surtout ne pas regarder et revenir sur votre propre biographie, ce que je fais malgré tout en votre présence, juste pour celles et ceux de nos auditeurs qui vous connaissent moins bien. À la question de Catherine Grenier, raconte-moi ton premier souvenir, vous répondez après différents propos. Il est certain que je me souviens depuis toujours de la honte d'être juif. Pas d'être juif, hein, mais de la honte d'être juif, ce sont vos propres mots. Christian Boltanski, ça renvoie aussi au fort sentiment religieux de votre père, converti au catholicisme. Ou plutôt, expliquez-vous, selon le roman familial qui avait choisi le catholicisme, parce que c'était moins compliqué que le judaïsme. Ça, c'est l'histoire qu'on se raconte chez les Boltanski. Sauf qu'ils ne se sentaient pas autorisés à rentrer dans les églises. Donc, vous alliez devant l'église en voiture et puis vous restiez tous dans la voiture pendant la messe. Rappelez aussi que la cellule familiale, c'est un mot qui convient bien puisque vous restiez toujours groupé, que votre première sortie seule, Christian Boltanski, vous l'avez faite à l'âge de 18 ans. Je passe vraiment très vite sur cette enfance qui est évidemment matrice de l'œuvre à venir. Mais justement, nous étions avec James Ellroy la semaine dernière et je lui demandais si l'écriture, parce que lui aussi a eu une enfance d'une autre façon compliquée, lui avait sauvé la vie. Il me répondait que oui. De fait, est-ce que la pratique artistique, Christian Boltanski, alors je ne sais pas si elle vous a sauvé la vie, mais est-ce que vous a permis de vivre?
Je pense que c'est une chance énorme d'être peintre, d'être artiste, parce que on ne parle pas du malheur, on ne parle pas de son malheur, on parle du malheur. On ne parle pas de sa tristesse, on parle de la tristesse. Et on fait passer tout ce qui est en soi sur l'autre. C'est-à-dire que la grande chose de l'art, c'est de parler de son village et que chacun dise c'est mon village. Et que chacun qui vous regarde ait une manière de terminer l'œuvre qui soit différente par rapport à son propre vécu. Mais en tout cas, il partage avec nous. Et donc, c'est une manière de se débarrasser. C'est pour ça que je dis que c'est une sorte de lente psychanalyse, parce que c'est une manière de s'en débarrasser en le passant aux autres, en quelque sorte. En passant cette angoisse aux autres. Plus on travaille, enfin, j'aime pas le mot travailler, mais donc plus on fait de choses, moins on existe. Et on devient le désir des autres, ou le portrait des autres. Je pensais ça, maintenant je suis un peu plus loin de ça, mais je pensais que chaque artiste n'avait plus de visage et à la place du visage, il y avait un miroir et chacun disait « c'est moi ». Et que c'était merveilleux finalement, et ça c'est justement, plus on vieillit, plus c'est merveilleux d'arriver à un certain âge où on ne vit plus, où on n'est plus que ce désir des autres. Et de même que je dis toujours pour m'amuser que Giacometti ressemblait à Giacometti, et Francis Bacon à Francis Bacon, et moi à une boîte de biscuits. De même, je crois que on n'est que le désir des autres. Et il y a une petite nouvelle de Bradbury là-dessus, où c'est des gens qui ont adopté un enfant martien, puis ils se promènent dans la campagne, puis un jour ils vont en ville avec cet enfant martien. Non, ils ont, parce que je suis très abouti ce matin. Et donc, ils ont perdu un enfant. Et puis ils vivent à la campagne, et ils voient leur fils qui se balade sur la route. Et puis, ils sont très contents de retrouver cet enfant qu'ils croyaient mort. Et puis, ils vont en ville avec cet enfant. Et là, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient qu'un jeune homme se précipite sur cet enfant en disant « papa ». Et puis, une femme dit « grand-père ». Et en fait, ils comprennent que cet enfant est un martien et que cet enfant n'a le visage que du souhait des autres, du désir des autres. Et je pense que quand on est artiste, on est un petit peu comme ça.
Donc, vous êtes un martien?
Je suis... Mais c'est pour ça que c'est très, très douteux, parce que c'est un peu prétentieux, ce que je dis. Oui, j'aimerais, en tout cas, si vous voulez, la plus belle chose qu'un artiste peut faire, c'est de faire ressentir l'odeur du café qu'on avait avant d'aller à l'école et que chacun dise comment il connaît cette odeur de café. Voilà. Et que chacun reconnaisse une odeur de café différente.
Alors, vous avez parlé de visage, Christian Boltanski, vous avez parlé de boîte de biscuits, mais justement, pour donner encore quelques images à nos auditeurs et pour entrer dans votre travail, avant de parler très précisément des œuvres qu'on voit actuellement, il y a un vocabulaire plastique de Christian Boltanski, alors qui peut être des photos de visage, qui peut être des ampoules, qui peut être des boîtes de biscuits, qui peut être des vêtements, ou simplement des photos de regard aussi, pas seulement des visages. Justement, qu'est-ce qui détermine le fait que tel ou tel élément entre dans votre vocabulaire? Parlons, prenons cet exemple-là, celui des boîtes de biscuits. À quel moment, dans votre travail, la boîte de biscuits apparaît? Comment vous l'utilisez?
La batte de Bisky, c'est un objet que j'ai utilisé il y a vraiment très très longtemps, dès 71 ou une chose comme ça. Et en fait, si vous voulez, moi je suis né à l'art au temps du minimalisme. Et mon vocabulaire est un vocabulaire minimaliste. Mais il se trouve que je suis un minimaliste sentimental ou un minimaliste expressionniste, qui sont des choses tout à fait contradictoires. Alors, la boîte de biscuits avait énormément d'intérêt. D'une part, c'est quelque chose qui est peu coûteux. Et j'ai toujours fait attention à essayer de dépenser le moins d'argent dans les matériaux que j'utilisais. Et puis, c'est à la fois un objet totalement minimaliste, comme une sculpture de Donge, une sculpture américaine, et en même temps, c'est un objet qui est très chargé. Parce que ça renvoie à la fois au coffre-fort du pauvre, au coffre-fort de l'enfant. Enfin, moi, quand j'étais enfant, j'avais une boîte de biscuits où je mettais mes petits trésors. Et puis, ça peut renvoyer aussi, quand il y en a plusieurs ou beaucoup, à l'idée d'urne funéraire. Et donc, en même temps, il y a un langage qui est un langage formel et qui est effectivement mon langage, puisque j'étais formé à l'art pendant cette période. Et puis, il y a une charge affective que chacun peut mettre dessus. Et je crois que j'ai toujours pensé que il ne faut pas que le spectateur découvre quelque chose, mais qu'il faut que le spectateur reconnaisse quelque chose. Et donc, en gros, tous les éléments que j'ai employés étaient quelque chose que chacun connaissait. Moi, je cherche beaucoup à travailler sur le sens commun. Et je pense qu'on ne peut travailler que sur le sens commun. Donc, je suis content si quelqu'un dit « Tiens, c'est une boîte de biscuits. » Voilà. Je connais ça.
Alors, dernier propos liminaire, introductif, avant que mes camarades vraiment vous questionnent à leur tour, pour faire une description alors de l'œuvre que l'on peut découvrir au Grand Palais. Commençons par celle-ci, elle s'intitule « Personne au pluriel ». On pourrait dire d'abord qu'il y a une horizontale, un mur donc, de boîtes de biscuits. Mur qui donc, peut bien sûr évidemment évoquer un columbarium. Le mur occulte la vue de ce qu'il y a derrière. Alors on peut le contourner par la droite ou par la gauche, peu importe, parce qu'il y a une symétrie ensuite. Donc après cette horizontale, on pourrait dire qu'il y a des aplats et qu'il y a une verticale. Les aplats, ce seraient ces rectangles dont l'espace est délimité par des piliers. Christian Boltanski, des alignements, alors avec des passages en ligne droite entre chacun des rectangles. Et sur ces rectangles, ces aplats sont constitués par des manteaux posés au sol. Et puis dire aussi que sur ces poteaux se trouvent, sur certains d'entre eux en tout cas, des enceintes qui nous font entendre des sons de battements de cœur, des battements de cœur qui sont des sons tous différents, fortement amplifiés, que donc le son est important sous la nef. Et puis la verticale, c'est cette pyramide, une pyramide de vêtements sur laquelle agit une grue excavatrice, une pince qui descend, prend un certain nombre de vêtements dans sa pince, remonte, ouvre, s'ouvre la pince, les vêtements retombent d'une façon aléatoire et la même opération va recommencer. Et puis à cette description, il faut ajouter le froid, puisqu'on le rappelle ici, le Monumenta se déroule normalement au mois de juin et que vous avez souhaité l'avancer pour que le froid participe de cette œuvre, puisque effectivement ce qui compte, au-delà de la description très sommaire que je viens d'en faire ici, Christian Boltanski, c'est d'entrer dans l'œuvre, d'être dans l'œuvre, de participer soi-même à l'œuvre. Et de fait, l'œuvre n'existe que si on est là pour en vivre l'expérience, Christian Boltanski.
Oui, je ne voulais absolument pas qu'on soit devant quelque chose, mais dans quelque chose. Et pour moi, effectivement, le froid, le son, le visuel, tout ça fait partie de la même élément, de la même œuvre, et les spectateurs également. Il y a une chose qui m'a beaucoup touché quand je me suis promené un peu après l'ouverture, c'est que, comme il y a ces carrés sur le sol, les spectateurs ont très souvent la tête baissée. Et ils regardent ces carrés, on a l'impression qu'ils cherchent quelqu'un. Et donc, ils font pour moi partie de l'œuvre. Il n'y a pas... Et c'est une œuvre, disons, globale. Il n'y a pas une chose que je peux dire, je ne peux pas dire j'aime mieux ci que j'aime mieux ça. Enfin, c'est une seule œuvre. Et effectivement, j'ai désiré... c'est quand on vous propose le Grand Palais, c'est une chose assez compliquée comme lieu. C'est un lieu qui n'est pas un white cube, qui est un lieu comme une sorte de vieil hangar 19e siècle. Vous voyez, à côté pour moi, usine 19e siècle, entrepôt. Et en tout cas, je crois que, et c'est aussi les règles, je pense, de ce qu'on appelait la monumenta, c'est-à-dire d'essayer de toucher un public qui soit un public un petit peu différent que de ceux qui vont dans les galeries, c'est qu'il faut faire une œuvre qui soit proche d'un opéra. C'est-à-dire qu'il faut faire une œuvre qui soit parlante à un public relativement large. Et donc, il m'a intéressé de concevoir cet objet comme effectivement un objet que chacun, à mon avis, peut comprendre et ressentir. Parce qu'il est plongé dans un univers. Quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à lire l'étiquette. J'ai toujours que si on voit de mes expositions et puis qu'on dit « Ah, Christian Boltanski est un bon artiste post-conceptuel de la fin du XXe siècle », ça veut dire que mon exposition est vraiment une exposition de merde. Et on doit y aller, puis on doit dire « Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne comprends rien, quelle honte !» et se mettre à pleurer, voilà. Ou se mettre à rire. Mais on ne doit pas lire l'étiquette. Et donc là, j'ai essayé qu'on ne puisse pas lire l'étiquette, voilà. Et puis, il y avait, donc, dans les demandes du début, il y avait encore une autre demande que j'ai faite, à part de celle étant d'hiver, c'est que je voulais que tout soit recyclé, tout disparaisse, qu'il n'y ait rien, aucun objet qu'on puisse vendre. Donc, ce qui va être le cas. Et pour moi, ce que j'ai fait comme une sorte de partition musicale, que là, je joue pour un très grand orchestre, mais par exemple, que je vais jouer en mai dans un lieu qui s'appelle l'Armory à New York, qui est très grand, mais un peu moins grand. Et donc là, c'est pour jouer pour un très grand orchestre. Et puis, je jouerai pour un orchestre un petit peu moins grand à New York. Et ça peut être joué après. Mais ce ne sera pas les mêmes objets. Et ce sera autre chose. Bon, il y a une partition, il y a une sorte de règle du jeu qu'on peut rejouer. On la modifie à chaque fois par rapport à l'espace.
On aura reconnu évidemment votre battement de cœur, Sophie Joubert.
Ce n'est pas possible, c'est les cœurs suédois.
Non, c'est mon cœur.
C'est votre cœur, parce que les cœurs là-bas sont des cœurs suédois.
J'ai enregistré dimanche en allant au Magval, suis entrée dans la petite cabine et une infirmière m'a posé un micro-stéthoscope sur le cœur. Et donc pendant 20 secondes, j'ai pu entendre mon cœur et on m'a gravé un CD, que voilà.
Voilà, que voilà, qui participe à ce projet des archives du cœur. Vous pouvez peut-être l'expliquer, Sophie Joubert.
Mais c'est une commande qu'on vous a faite, Christian Boltanski, sur une île au Japon. C'est parti de là. On vous a proposé.
J'ai fait un travail très grand dans le nord du Japon, dans la montagne. Ce travail a été financé par un bienfaiteur. Et ce bienfaiteur a une fondation dans une île de la mer du Japon, qui s'appelle Naoshima. Et il m'a dit, j'aimerais bien que vous fassiez quelque chose comme vous avez pu faire dans le nord, près de chez moi, près de ces îles. Et là, j'ai eu l'envie, parce que je commençais déjà à avoir collectionné les battements de cœur depuis un certain temps, d'y créer ces bibliothèques du cœur. Parce que c'était assez compliqué, parce que, effectivement, comme c'est une chose permanente, par exemple, il faut 4 techniciens... Il faut créer une sorte de système de bateau. Enfin, il a été extrêmement gentil d'accepter que ces bibliothèques tiennent lieu dans cet endroit, parce que c'est plus compliqué qu'une œuvre qu'on laisse là. Quoi.
Et pour l'instant, il y a 35 000, je crois, déjà, battements de cœur dans cette île.
Il y a 35 000 battements de cœur, mais ça s'augmente constamment. Et je crois, d'ailleurs, le Grand Palais, comme ça, apporte 1000 cœurs par jour, une chose comme ça. Enfin, il y a beaucoup de... Et donc, ce que je disais, c'est que les cœurs qui battent au Grand Palais, en fait, par le hasard de la vie, sont des cœurs suédois.
Bon, maintenant vous avez fait don de votre battement de cœur, Sophie Joubert.
Oui. Pour rester sur Monumenta, moi ce qui m'a frappé au Grand Palais, Christian Boltanski, c'est la dimension théâtrale. Vous parliez tout à l'heure d'opéra. Au Magval aussi, d'ailleurs, dans cette exposition, après, il y a quelque chose d'assez théâtral avec ces mannequins, ces silhouettes qui font penser à la classe morte de Tadeusz Kantor. Le théâtre est quelque chose d'extrêmement important dans votre travail depuis très longtemps. Il y a des figures comme ça qui sont importantes pour vous. Donc j'ai parlé de Kantor, il y a aussi la figure de Karl Valentin, il y a aussi Pina Bausch. Et vous dites que, au fond, depuis votre entrée dans la vieillesse, alors on peut discuter sur cette entrée dans la vieillesse, mais le spectaculaire et le théâtre est devenu de plus en plus important. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ?
Disons, les trois noms que vous avez donnés sont des noms qui sont pour moi mes maîtres. Enfin, j'ai une passion pour ces trois personnes. Ce qui est certain, si vous voulez, c'est que depuis maintenant, je ne sais pas, 7-8 ans, j'ai peut-être recherché, ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais un art plus total. Disons, je ne produis plus rien que l'on puisse vendre dans une galerie et accrocher à un mur. Et je me suis beaucoup intéressé, aussi bien quand je faisais des expositions dans des musées, à, vous savez, pour moi, il y a deux grands types d'art. Il y a les arts du temps et les arts de l'espace. Dans les arts du temps sont la littérature ou la musique, le théâtre, et puis il y a les arts de l'espace qui sont la peinture et la sculpture. Et je crois que les arts du temps ont cette chance de pouvoir amener le suspense, le retournement, le suspense et donc l'émotion. Je cite toujours la fin de la Dolce Vita où tout va très mal, puis la petite fille qui agite la main, puis tout repart. Et donc j'ai essayé de mêler les arts du temps et les arts de l'espace. Et puis j'ai travaillé avec Franck Krafcik et Jean Kalman sur beaucoup de spectacles, du Châtelet, Triennale de la Roue, enfin dans beaucoup, beaucoup d'endroits. Et ce qui m'a vraiment aussi intéressé, c'est le fait que tout était détruit après. Il n'y avait plus rien et qu'il y a une chose très belle dans ces... Ça demande beaucoup, beaucoup de travail de faire un spectacle. Et puis en même temps, tout ça, pff, ça y est, c'est pour deux jours. Et vraiment, temps très, très court. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé. Et ça rejoint mes préoccupations. C'est-à-dire que je pense qu'il y a deux modes de transmission. Il y a un mode de transmission qui est plutôt occidental et qui est par l'objet. Et il y a un mode de transmission qui est, par exemple, plus proche pour moi de ce que je vois au Japon, qui est par le savoir. Si vous voulez savoir, les temples sont refaits fréquemment, mais il y a des gens qu'on appelle trésors nationaux parce qu'ils savent les refaire. Et donc je pense vraiment qu'on peut transmettre, et je tiens beaucoup à transmettre, mais qu'on peut transmettre par l'objet ou par le savoir. Et donc le spectacle est une transmission par le savoir. Et qui reste dans la mémoire. C'est très beau de penser, et c'est terrible et très beau, que justement pour Cantor, par exemple, ça reste que dans la mémoire de quelques-uns. Mais...
On a tous en nous un enfant mort.
On a tous en nous un enfant mort, comme dirait Cantor. On a tous en nous un Cantor mort et un enfant mort. Pour Cantor, je voulais faire quelque chose, mais qui m'aurait plu, mais qui n'était pas possible. C'est-à-dire que Cantor était toujours sur scène. Puis quand il est mort, ça pose un problème parce qu'il ne peut plus jouer sa partie. Et donc je pensais, et sa troupe est dans l'ensemble très très vieille, qu'on devait toujours jouer les pièces de Cantor dans la même durée, mais jamais remplacer les morts et laisser des blancs. Et donc à la fin, il n'y aurait eu plus que 2 minutes de parole, qui était le plus jeune acteur qui ne serait pas encore mort. Et puis quand celui-là mourrait, on ne pourrait plus jouer les pièces de Cantor. Mais je trouve ça joli d'imaginer qu'une œuvre comme ça se descende très lentement vers le silence.
Il deviendrait une œuvre de Beckett, alors.
Il deviendrait une œuvre de Beckett, voilà.
Alors tiens, Vincent Huguet, qui a une passion au moins aussi grande pour l'opéra, pour la danse que pour les arts plastiques.
Oui, on parle de spectaculaire. Je crois qu'il faut dire aussi aux auditeurs que c'est une expérience physique, au Grand Palais comme au Macval. Au Grand Palais, donc, on est frigorifié, on se gèle, on a très très froid. Au Macval, on a assez chaud, en revanche. Et je crois que c'est vraiment quelque chose de physique comparable à un sol élastique ou peut-être au fait d'entrer dans une église. Par exemple, un jour, on enterre quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et vous avez cette espèce de sentiment, vous avez un peu chaud, un peu froid, mais vous sentez une chose bizarre. Et moi, j'étais très frappé, effectivement, quand Arnaud vous parlait d'opéra en deux actes, c'est exactement ça. Et il y a une efficacité dans les deux œuvres qui est absolument redoutable. Et on a beau connaître votre vocabulaire, comme le disait Arnaud, il y a des choses qu'on reconnaît. La vue à l'entrée est barrée par des boîtes de biscuits. À l'intérieur, on va trouver des vêtements. Au Macval, c'est plus simple parce qu'on est à peu près dans le noir. Mais disons que c'est un langage qu'on connaît, des thèmes qu'on connaît. On n'en a pas encore beaucoup parlé, mais je ne dévoilerai pas un grand secret en disant qu'on n'est pas très loin de la mort, on est autour de ça, entre autres. Et pourtant...
Ou après, donc, ou comme après, au Macval.
Et pourtant, c'est nouveau, ça marche. Je trouve complètement saisissant. Et je pense que la grande richesse de cette œuvre, justement, vous disiez que vous aviez vu des spectateurs qui semblaient chercher des personnes dans ces travées, donc remplies de vêtements, c'est que vous jouez à la fois, peut-être comme souvent, sur à la fois une œuvre très magistrale. On a parlé de Jugement dernier. C'est sans doute pas un Jugement dernier parce que vous avez.
Pas de choix.
On juge pas.
On juge pas, bon. Pas de choix.
Mais disons, vu d'un œil profane, admettons quelqu'un qui aurait jamais vu d'art contemporain, ces vêtements qui sont répartis au sol en carré, éclairés par des néons et juste entourés par des poteaux en acier, ça pourrait être aussi pas si différent d'un marché aux puces où on trouverait étalés sur le froid béton d'un parking des vêtements. Et cette espèce de pince qui descend dans cette montagne de vêtements, qui les prélève, qui les enlève, ça peut aussi rappeler ces espèces de bras mécaniques qu'on voit dans les foires, où un bras mécanique, selon des lois du hasard, va vous chercher le gros nounours rose dont vous rêviez, ou une petite flûte en plastique absolument minable, pour le même prix, et fruit d'un hasard.
Donc, je vous dirais même que l'idée est partie de là.
Ah, ben voilà.
L'idée est partie de ces... J'ai jamais réussi à attraper un ourson avec cette pince.
Ben oui,
mais d'argent, mais au moins, ça m'a donné cette idée.
Donc c'est une revanche sur le nounours rose. Bon. Et donc c'est des éléments qui peuvent être aussi qui viennent du langage commun, enfin du quotidien. Et pourtant, quand on parcourt ces allées, comme celle du Macval d'ailleurs, on a une impression de parcourir les champs glacés de l'histoire. Moi, je trouve qu'il y a un sentiment Claude Lanzmannien, au sens où, comme chez Claude Lanzmann, et notamment dans son dernier livre, Lièvre de Patagonie, qui a eu tant de succès, à la fois on est confronté à un spectacle où il y a de l'horreur, il y a quelque chose de très dur, et pourtant, c'est pas pathétique. Il y a de la vie, il y a quelque chose qui fait quelque chose de très lié à l'histoire de l'art. D'ailleurs, ces tableaux où on représente Dante en visite aux enfers, où on vous amène, mais vous n'y êtes pas, vous n'êtes pas plongé dedans.
Je crois, disons que pour moi, le grand avantage de l'art, comme je disais tout à l'heure, c'est que un chameau peut être un chapeau. Bon. C'est-à-dire que chacun peut voir ce qu'il a envie de voir. Et j'ai vu des enfants extrêmement heureux au Grand Palais et trouvent ça très coloré et très amusant. Les deux après est beaucoup plus douce. Il y a une sorte, c'est après, enfin, c'est la paix de la mort. Je raconte cette histoire parce que j'aime bien cette histoire. J'ai un ami irlandais qui m'avait raconté ça. Son père mourait et il dit à son père : tu vois, la mort, ne t'inquiète pas, c'est pas très grave. C'est comme de prendre l'avion. Avant, il y a du bruit, on a peur de perdre son ticket. Est-ce que la valise était bien embarquée ? Est-ce que je vais entendre le mot d'appel ? Enfin, on est un peu affolé. Puis on entre dans l'avion, puis l'avion part, et à ce moment-là, on est calme. Et pour moi, ces deux œuvres, c'est un petit peu ça. Il y a au Grand Palais le temps de mise à mort, il y a du bruit, on est mal, on ne sait pas où trop comment faire. Puis après ça, on arrive au Macval, où oui, on est dans un endroit où ce n'est pas très joyeux, on est une sorte de labyrinthe, on vous pose joyeusement des questions sur comment on est passé, ça c'est les hôtesses de l'air, si on veut, et puis on est là à attendre, quoi. Mais on est tout de même mieux.
Pascal Horry.
Mais on est peut-être très bien déjà au Grand Palais, parce que visiblement, dans cette réunion, chacun apporte sa boîte de biscuits, l'ouvre, alors j'ouvre la mienne.
C'est même le principe, hein, voilà. Même de la Donc, façon voilà. dont Christian Boltanski nous propose
j'ouvre
son travail.
Et j'étais surpris, parce qu'évidemment, quand on va entrer, puisqu'on entre dans une œuvre de Christian Boltanski, qui est au pinacle actuellement, on est déjà très prédéterminé par tous les discours qui nous précèdent, quoi. Et moi, je m'attendais, parce qu'on m'avait tympanisé les oreilles avec ça, à quelque chose de profondément glauque et mortifère. Et évidemment, du coup, je vois tout le contraire. Je vois en particulier les taches de couleur dans les horizontales. Et votre grand cône tronqué, dans lequel la main de je ne sais qui, d'un machiniste, d'ailleurs, j'ai compris que ce n'était pas automatique. Il y a quelqu'un qui est. C'est quand même intéressant.
Dieu est un grutier.
Voilà. Dieu est un grutier, ce qui est quand même très important.
Dans Dieu n'est pas un fumeur de hachis.
Nos auditeurs viennent de comprendre que Dieu est un grutier.
Dans une petite cabane sur une balustrade.
Et donc, ce grand cône m'a paru extraordinairement clair. Les tonalités sont très, très claires. Donc, moi, j'ai vu, au contraire, je ne dis pas une certaine gaieté, ce serait peut-être exagéré, mais enfin, je ne vois pas en quoi ça me tirerait vers le plus funèbre. Et je me suis même dit, alors vous serez peut-être partagerez peut-être pas du tout mon point de vue, mais je me suis dit que être conçu en 43, c'est-à-dire au cœur de que les chrétiens disent la déréliction, c'est-à-dire que Dieu est aux abonnés absents, 43, bon, c'est extraordinairement positif, je veux dire, vous êtes sorti de ça. Alors au fond, c'est très gai.
Non, mais je suis un homme extrêmement joyeux, vous savez, voilà. Je suis un homme extrêmement joyeux et heureux. Et effectivement, je me dis toujours, c'est une sorte de miracle que je n'ai pas été avorté. Enfin, la chose normale aurait été que je sois avorté, et ça aurait été plus que raisonnable. Et donc c'est aussi une question que je me pose par rapport à celui qui aurait pu me suivre.
Mais c'est très euphorisant, au fond.
C'est très euphorisant, absolument, oui. Mais moi, je suis quelqu'un de très euphorique, je veux dire, c'est pas... disons... Ce que j'essaie de faire, c'est donner des émotions et poser des questions. Et de plus en plus, tout ce que je fais, arrivé à mon âge, c'est des sortes de petites paraboles. Alors, par exemple, je sais pas, j'ai mis récemment une horloge parlante sous la cathédrale de Salzbourg, dans la crypte. Donc maintenant, on va dans la crypte de la cathédrale de Salzbourg et on entend, il est 11h, 20 minutes, 10 secondes, en allemand, 11h, 20 minutes, 20 secondes. Alors, ça ne s'arrête jamais, on ne peut pas l'arrêter, quoi. C'est un gros ordinateur et ça continue comme ça. Et là, ce qui m'a amusé, c'est effectivement que pour moi, il y a quelque chose qui est plus fort que l'homme, qui est ce temps qui avance constamment et qui nous amène à notre fin et qu'on ne peut absolument rien faire contre ce temps qui avance. Donc, je pourrais dire, j'aurais pu faire un petit texte là-dessus, mais ce qui était vraiment intéressant, c'était d'aller convaincre l'archevêque de Salzbourg que c'était juste de dire ça, qu'il me donne sa crypte, et que si on va là-bas, on puisse vraiment entendre ça. Donc c'est en même temps une histoire, comme il y a des millions de cœurs qui battent dans la mer du Japon, mais en même temps, il faut qu'il y ait une réalité pour moi. S'il n'y avait pas cette réalité, ça ne m'intéresserait pas parce que tout serait possible. Je voudrais dire, je fais pousser des fraises dans le Sahara. Bon, ça n'a pas d'intérêt si on ne le fait pas.
Sophie Joubert.
Mais alors justement, Christian Boltanski, on parle du temps avec cette grue qui symbolise la marche inexorable du temps. Moi, je me demandais, vous êtes un artiste qui travaille sur la mémoire depuis le début. Comment vivez-vous l'effacement possible de votre propre mémoire avec l'entrée dans la vieillesse, encore une fois? Enfin, c'est une question qui se pose, j'imagine, pour vous.
Alors, je disais tout à l'heure pour m'amuser que j'avais très peu de mémoire. Parce que, ouais. Je crois beaucoup à la transmission. Mais je crois donc à la transmission et j'espère vraiment beaucoup qu'après moi, des gens vont jouer mon œuvre.
Et vont jouer interpréter
mon musique. Oui. Voilà, interpréter mon œuvre. Et je pense que c'est vraiment le plus important. Mais à ce moment-là, ça veut dire réincarner. Ce sera, comme on dit pour un musicien, sans comparaison avec moi, Bach interprété par Glenn Gould. Je veux dire, ce sera réincarné et changé.
Sans l'archevêque de Salzbourg, c'est Mozart.
Absolument.
C'est quand même ça.
Salzbourg est une ville terrible. Parce qu'il y a la charcuterie Mozart, la boulangerie Mozart, le gâteau Mozart. C'est-à-dire, vous décorez de Mozart à tout jamais. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, bon, je veux dire que j'espère qu'il restera cette possibilité à d'autres d'interpréter mon œuvre.
Sauf qu'il faut prendre ses dispositions pour que ce soit possible, Christian Boltanski. Il faut que vous puissiez dire, voilà mes partitions, libre à vous, vous avez ce vocabulaire, il y a une certaine façon de faire, un mode d'emploi.
Oui, mais même pas un mode d'emploi trop précis. Il y a essayé de vous savez, il y a très longtemps, avec Hans Schubert, j'avais fait une exposition qui s'appelait Do It. Et là, c'est des modes d'emploi qui ont été envoyés à plein de petits centres d'art à travers le monde, qui, je crois, ont été joués, je ne sais pas, 85 fois. La seule règle, c'est que les artistes ne devaient pas voir ce qu'ils faisaient. Et il y a une vingtaine d'artistes qui ont chacun envoyé le mode d'emploi et c'était à eux de le jouer, de l'interpréter. Donc on peut bien jouer ou mal jouer un morceau de musique. Mais disons, il y a la possibilité de le jouer. Et fréquemment, des œuvres que je fais aujourd'hui, quand je n'ai pas le temps d'y aller ou que c'est trop loin, elles sont jouées pour moi.
Mais vous laissez une part possible à l'aléatoire. Parce que je pense à Merce Cunningham qui a pensé à sa succession en enfermant ses chorégraphies dans des capsules. Et au fond, il laisse la possibilité aux interprètes de les réinterpréter un peu de manière aléatoire.
Absolument. Et moi, je rêverais qu'un jour, alors je ne dis pas ça pour moi parce que je n'oserais pas le faire, mais je rêverais qu'un jour, je ne sais pas, Carl André rejoue Boys. C'est-à-dire de demander, comme disons Mozart s'est inspiré d'œuvres de Bach, et comme il y avait une possibilité, je trouve que ce serait très passionnant de voir comment un artiste pourrait réinterpréter au mieux, au plus sérieux, je veux dire, une œuvre de quelqu'un d'autre.
Et du coup, les arts de l'espace deviendraient des arts du temps.
Les arts de l'espace deviendraient des arts du temps, absolument, comme ça, on aurait ce passage. Donc il y a ça, et pour ma propre vieillesse et mon propre perte de mémoire, si c'est ça dont vous parliez directement, vous savez, il y a cette histoire que mon atelier est filmé donc jour et nuit et envoyé dans une caverne en Tasmanie. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai fait ça, mais une des raisons, c'est parce que on va évidemment me voir de plus en plus gâteux si je ne meurs pas d'ici là. Et je pense qu'on a dans notre société un très très mauvais rapport avec la mort et la vieillesse. Je ne suis pas très catholique, il faut le dire. Mais j'ai aimé chez le pape précédent le fait qu'il se montrait de plus en plus avachi. Je veux dire qu'il a accepté sa déchéance et qu'il a accepté sa mort qui était publique comme ça. Et ça, je pense que c'est une chose très bien et très intéressante, parce que je crois qu'un des malheurs de notre société, c'est que nous refusons totalement la vieillesse et que nous refusons totalement le fait qu'il semble que nous allons mourir et que la mort fait partie totalement du vivre. Si on voit un bébé, on sait qu'il va mourir et que l'enterrement est le lieu où les gens se réunissent et où des jeunes gens vont se rencontrer pour un autre départ. Et donc, je crois que de pouvoir parler de la mort et de sa mort est une chose intéressante.
C'est en ceci que vous n'êtes pas très catholique, parce que les catholiques n'étaient pas tous très heureux de voir le pape Jean-Paul II ainsi décliné à la vue du monde. Vincent Huguet.
Et votre amour pour Jean-Paul II, c'est votre point commun avec Andy Warhol.
Absolument. Et lui, il était plus catholique que moi.
Et justement, vous parlez de cette société qui accepte pas la vieillesse ou la mort. Il y a quelque chose qui frappe aussi dans votre démarche aujourd'hui, c'est que, et vous vous en parlez d'ailleurs à propos du Grand Palais, vous en parlez différemment, vous parlez de morale. D'un côté, vous parlez de votre morale d'artiste en disant « j'aurais pu mettre 4 chaises sous la nef du Grand Palais, au fond ça aurait été efficace, mais je le fais pas parce qu'il y a des gens qui vont venir pour ça, il y a des gens qui vont payer leur billet, on va encore dire que l'art contemporain c'est n'importe quoi. »
4 euros plein tarif, 2 euros réduction, donc c'est quand même accessible à un très grand nombre, je le signale ici.
Oui, donc d'un côté effectivement une morale sur ce que vous faites, et aussi une morale sur la manière dont vous le faites, c'est-à-dire que vous êtes aussi, et notamment dans le livre qui est republié avec Catherine Grenet, très lucide sur les reproches qu'on vous fait, et notamment, alors on peut se dire que c'est étrange, parce qu'est-ce qu'on reprocherait à Philippe de Champagne d'avoir fait trop de crucifix, de Christ mort? Est-ce qu'on reprocherait à Monet d'avoir peint trop de nymphéas quand il était âgé? Bon, mais on vous reproche aussi on voit systématiquement la Shoah dès que vous mettez 2 vêtements par terre ou une petite ampoule. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui compte pour vous aujourd'hui?
Alors, bon, moi je pense qu'il y a beaucoup d'humour dans mon travail, mais peut-être que je suis le seul à le voir.
Non,
parce que par exemple, quand j'ai parlé des Suisses morts, il y avait de l'humour, par exemple, et tout mon art est un art de dérision. Enfin, c'est un art je ne fais pas des monuments en marbre, mes monuments sont en papier de Noël. Enfin, il y a, je crois, toute une sorte de versante. J'aimerais toujours, mais ce sera l'œuvre ultime, finir par une pièce joyeuse. Je vous parlais de Pina Bausch tout à l'heure, enfin on parlait de Pina Bausch que j'adorais vraiment, et les derniers spectacles de Pina Bausch étaient de plus en plus joyeux. Et je trouve que c'est bien, plus on vieillit, plus d'être joyeux. Et donc j'espère, mais j'attends, parce que j'ai encore un peu de temps, de faire une œuvre vraiment joyeuse.
On attend, on n'est pas pressé de la voir, alors Christian Boltanski. Pascal Horry.
Oui, et je pense que cette joie grandissante, ça confirme que vous êtes quand même un grand artiste religieux, si je peux me permettre. Ça me paraît assez cohérent avec tout ça.
Il y a un rapport profane à la religion.
Oui, voilà, la vraie religion.
Je crois que tout être humain, mais que ce soit un Indien d'Amazonie ou un habitant de Malakoff comme moi, je crois que nous cherchons tous des clés à des serrures. Naturellement qu'il n'y a aucune bonne clé.
Il n'y a peut-être pas tant de serrures que ça.
Et peut-être pas tant que ça, mais en tout cas, être humain, c'est chercher des clés. Quoi.
Oui.
Et donc, on peut les trouver dans plein de domaines et tout ça.
Mais méfiez-vous, en Tasmanie, vous n'arrêtez pas de dire que c'est un diable, celui qui vous accueille.
Oui, hein. Naturellement. Parce que
vous avez une longue cuillère, j'espère. Hein.
C'est
le diable de Tasmanie.
Je suis plus fort que le diable. il est sûr qu'il est le diable, parce qu'il dit qu'il ne perd jamais, donc il est plus fort que le hasard. Et celui qui est plus fort que le hasard se pense plus fort que Dieu, et donc est le diable.
Vous savez quel est l'inverse du diable? C'est le symbole. Parce que le diable, c'est ce qui divise. Et le diable, et le symbole, c'est ce qui réunit. Hein. Donc vous êtes du côté du symbole.
Je suis du côté du symbole. Ouais. Ah, oui. Donc nous vaincrons le diable de Tasmanie.
Mais il est le diable parce qu'il a acheté cette œuvre en viager.
Oui, parce que dans le tout de la plaisanterie, c'était celle-là. C'est-à-dire qu'il me dit... Bon, c'est un joueur professionnel qui a fait une grosse fortune en jouant de manière professionnelle. Et il me dit, de toute façon, moi, je ne perds jamais. Et effectivement, il peut se souvenir de milliards de chiffres, il peut calculer plus vite qu'un ordinateur, bon, tout ça est vrai, et en même temps, il peut rester des heures sans parler, mais tout ça, bon. Et il me dit, d'ailleurs, si vous voulez, je peux vous apprendre à jouer au dé, c'est rien, bon. Et il a essayé de m'apprendre, j'ai pas réussi, bon. Mais, et donc, je vais essayer de lui vendre en viager. Et il me donne chaque mois un petit peu d'argent, à partir de février, là. Et dans 8 ans, il aura payé la somme qu'il me doit. Mais... naturellement, si je meurs dans 6 ans, il fera une bonne affaire. Si je meurs dans 10 ans, il fera une mauvaise affaire. Donc lui m'assure que je meurs avant 8 ans. Quoi. Et moi, j'espère que non, et je suis sûr que non. Et en tout cas, moi, je suis content parce que j'ai ma retraite des Beaux-Arts. J'ai pris ma retraite des Beaux-Arts là, il y a quelques mois. J'ai mon petit viager. J'ai mon petit jardin où je peux faire pousser des légumes, je suis tranquille.
Et vous serez de plus en plus joyeux, Christian Boltanski. Alors à découvrir, Monumenta 2010, personne au pluriel. C'est au Grand Palais jusqu'au 21 février. L'exposition après au MacVal à Vitry-sur-Seine, c'est jusqu'au 28 mars. Réédition donc de ce livre avec Catherine Grenier, La vie possible de Christian Boltanski, cette édition du Seuil. Il y a ce très beau catalogue, notamment un entretien croisé entre vous et Daniel Mendelssohn qu'on avait reçu ici. pour ce fameux livre Les Disparus, un entretien absolument magnifique avec vous. Ce livre, donc, lui est paru chez Flammarion. Flammarion. Et puis, il y a le DVD Les Vies Possibles de Christian Boltanski. C'est un film qui a été diffusé sur Arte lundi soir et qui sera disponible en DVD chez Arte Vidéo à partir du 6 février.